Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous pour cette soirée débat. L'antisémitisme d'hier à aujourd'hui, l'État français et les Juifs, regards croisés, ceux de Olivier Lalieux. Ma gauche, Olivier, vous êtes responsable des lieux de mémoire au mémorial de la Shoah, vous êtes historien, vos travaux portent depuis longtemps sur la mémoire de la déportation, vous êtes membre du Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et l'Holocauste au musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire des déportations, je ne vais pas les citer tous, de même que pour Jonathan en suivant, puisque vous avez également dans la salle que vous avez traversée pour rentrer, la table des libraires de notre partenaire Ombre Blanche, vous pouvez retrouver les ouvrages d'Olivier Lalieux et de Jonathan Ayoun et un certain nombre d'ouvrages complémentaires d'autres auteurs. Olivier, vous avez dirigé très récemment, 2021, travail d'écriture, La Shoah au cœur de l'anéantissement avec Philippe Boukara, Tal Brutman, Piotr Svinsky et quelques autres. Et vous avez enfin co-dirigé la nouvelle histoire de la Shoah en 2021. Juste à côté, Jonathan Ayoun, pour qui c'est un retour aux sources, puisqu'on se disait tout à l'heure que Jonathan avait inauguré la première soirée de la première édition 2019 des Rencontres pour l'égalité. Donc je suis ravi de l'avoir ce soir à nos côtés. Voilà, puis quand on l'a contacté, il a accepté... immédiatement. Jonathan, vous êtes réalisateur, ancien président de l'UEJF. Je vais passer sur les diplômes en master de communication assez prestigieux. Vous êtes l'auteur avec Judith Cohen-Solal du livre La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs en France, qui est paru aux éditions Grasset, réalisateur de plusieurs films, parmi lesquels on peut citer Sauver Auschwitz ou Comment sauver... des mémoires du crime des crimes, où vous parlez essentiellement de banalisation. Et puis, plus récemment, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre le plus récent, l'histoire de l'antisémitisme, paru en 2022, l'édition bouquin. Et puis, je suppose que, tout comme nous, vous avez suivi sur Arte l'excellente série en 4 épisodes, Histoire de l'antisémitisme, où... Jonathan retrace cette histoire sur un temps suffisamment très long et on va en revenant aux sources et on va en parler très largement pendant ce débat. Ce regard croisé va être animé par moi-même et par mon collègue tout à fait à l'autre bout, Antoine Grande, directeur du musée de la résistance et de la déportation. Et on va essayer à tous les deux de piloter cet échange avant de vous donner aussi, faire circuler un micro pour vous permettre d'interroger directement Olivier et Jonathan. Voilà, pardon sur cette assez longue introduction. J'ai envie de me tourner pour commencer vers Jonathan. Je viens de citer la série Histoire d'antisémitisme. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'aborder l'histoire d'antisémitisme dans le temps long, très long, dans votre série documentaire? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable pour appréhender l'antisémitisme?
Déjà bonsoir et merci de cette invitation, en effet de la seconde invitation, pour donc parler plus amplement de l'histoire de l'antisémitisme. L'histoire racontée sur 2000 ans en 4 épisodes, donc sur cette série documentaire sur Arte, était à l'origine une commande de la chaîne qui voulait justement, et à juste titre, remonter non pas aux origines, puisque les origines sont difficiles à identifier, hein, on n'a pas de source du moment d'apparition du phénomène, mais en tout cas de retracer sur le temps long, comme ils ont l'habitude de le faire dans leur collection historique, ce phénomène-là. Et c'était plutôt bien vu, en tout cas en prêtant l'exercice, j'ai pris la mesure de la pertinence de cette idée, dans le sens où l'antisémitisme est une construction sur le temps long. Déjà, l'existence de l'antisémitisme n'est pas inhérente à l'existence du peuple juif. On a du mal à situer. La première violence anti-juive est documentée étant l'an 38 à Alexandrie. Et le phénomène d'antisémitisme comme phénomène de société, comme manière de prendre corps auprès des populations, n'arrive qu'au tournant du millénaire. Ce qui paraît assez improbable quand on a l'impression que l'antisémitisme remonte à la nuit des temps. La phrase n'est pas fausse, mais elle ne recouvre pas une réalité véritable. Si on cherche à comprendre quels sont les moments de passage à l'acte violent très fort à l'égard des Juifs, c'est au temps des croisades, c'est pas avant. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'une des accusations les plus importantes, l'accusation de déicide, d'accuser les Juifs d'être le peuple meurtrier de Dieu, de Jésus, est apparue au IIe siècle. Donc peu de temps après la mort de Jésus, de fait, mais elle devient une croyance populaire qu'au moment des croisades. Une autre accusation aussi, qui est une de celles qui a été les plus ravageuses à travers l'histoire, qui est l'accusation de crimes rituels, notamment de sacrifices d'enfants, est apparue donc à Alexandrie, dont je parlais au début, au moment de la violence anti-juive en l'an 38, mais après, elle ne fait plus partie des accusations, elle est recyclée en mythe chrétien, également là, c'est en 1144 en Angleterre à Norwich, et c'est à ce moment-là où cette accusation va circuler, va se diffuser. Donc on a un premier millénaire après la naissance ou la mort de Jésus qui n'est pas un millénaire extrêmement marqué par l'antisémitisme. C'est à partir donc de 1100, 1090 avec les croisades, 1144 avec l'accusation de crimes rituels, que là on peut parler d'un phénomène d'antisémitisme beaucoup plus important et qui fait société, enfin qui fait fait civilisationnel. Et donc c'est le second épisode de la série où on se penche sur la manière dont, comme c'était dit en introduction, il a fallu des siècles pour défigurer les Juifs dans l'art, dans l'imagerie, il a fallu des siècles aussi pour les distinguer dans l'espace public. Et le deuxième épisode raconte tout cela, c'est-à-dire en démarrant notamment avec l'apparition du premier né juif connu de l'histoire. Aujourd'hui, on connaît tous le préjugé, le stéréotype du nez juif, du nez crochu. Personne nulle part n'associait les Juifs à aucun type de nez avant 1190, avant, j'ai pas la date précise, mais en tout cas avant le XIIe siècle, où pour la première fois on représente les Juifs avec un nez crochu. Il a fallu du temps pour que ça devienne un marqueur dans l'art chrétien du Moyen Âge d'identification du Juif. Après, je pourrais rentrer plus en détail des raisons et de la fonction de cette caractérisation, mais je prends cet exemple-là parce qu'il est très marquant. Ça montre à la fois à quel point c'est très très vieux, et puis en même temps que c'est pas si vieux que ça, puisque ça n'apparaît pas au moment de l'apparition du phénomène de haine à l'égard des Juifs. Et puis après, dans le troisième épisode, je balaye là un peu comme ça, généralement, on s'intéresse au passage, mais peut-être qu'on y reviendra, de l'antijudaïsme à l'antisémitisme, et donc de fait à ce qui a amené un tournant dans l'histoire juive, qui est l'émancipation, ici en France d'abord, d'une partie d'entre eux, où ils ont pu acquérir l'égalité jusqu'à la Shoah, et donc avec l'apparition de l'antisémitisme racial durant le 19e siècle. Et puis le dernier épisode va de 1945 à nos jours. Donc voilà, c'est un découpage historique chronologique, très basique, mais qui en même temps recouvre, retrouve, rejoint une thématisation assez intéressante sur la circulation du phénomène.
Jonathan, avant de passer la parole à Olivier sur la période de la guerre à proprement parler, est-ce que on voit se dégager dans ce temps long, pour ce qui concerne l'histoire française notamment, des mouvements particulièrement identifiés dans les idéologies qui ont constitué l'antisémitisme comme un socle politique, idéologique en France?
Oui, il y a clairement un discours qui s'est construit en effet sur le temps long et qui a été recyclé, a été récupéré par les mouvements politiques après avoir été un discours surtout religieux, surtout théologique. L'antijudaïsme théologique devient un antisémitisme politique au courant du 19e siècle. Et donc c'est un phénomène très très important dans l'histoire de l'antisémitisme en France, mais j'imagine qu'on reviendrait après. Mais sur son passage dans le nazisme, c'est une manière de recycler les différents discours. On va puiser dans chacune des époques et on vient actualiser les accusations pour créer une sorte de compilation des discours de haine. Donc à la fois il y a un fil qui peut être dressé, et à la fois, étant donné qu'il y a une accumulation, au bout d'un moment, ceux qui arrivent au pouvoir viennent leur permettre de refaire surface. Donc il y a des périodes de latence aussi qui sont très importantes, notamment en France, puisque certes le 19e siècle est considéré comme un moment terrible dans l'histoire de l'antisémitisme en France, mais c'est aussi celui où pour la première fois des Juifs accèdent au même statut que les autres, où ils peuvent mieux se sentir sentir faire corps avec le reste de la société ou ils entrent dans la nation. Donc c'est un moment assez paradoxal et difficile à définir de manière précise comme le moment où l'antisémitisme politique devient un nouvel antisémitisme. Ça, c'est très difficile à noter.
Alors justement, Olivier, vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah en Europe, en France en particulier, mais aussi de l'histoire de la mémoire de la Shoah, qui, on le verra, est un élément important dans la compréhension du rapport de la République à l'antisémitisme, notamment dans sa condamnation, sa prise en compte de sa spécificité. On y reviendra, mais comment passe-t-on d'une défaite en juin 1940 à un État français antisémite? Comment passe-t-on d'une défaite militaire à un État qui théorise en rupture avec la République qui le précédait, le statut des Juifs, leur arrestation, leur désignation et leur extermination?
Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi simplement de dire un grand merci aux organisateurs de cette manifestation et le plaisir qui est le mien d'être accueilli ici à Toulouse, auquel je suis très attaché, auquel le mémorial de la Shoah, je l'ai dit et je le redis ici au sein de l'hôtel du département, est également très attaché de ce partenariat qui nous réunit avec le département de Haute-Garonne. Alors, là, on va peut-être avoir un problème d'échelle, c'est-à-dire que la Shoah, c'est d'abord un projet nazi. Et il faut le redire, hein, sur toutes les questions qui ont trait à la collaboration, il y a une dynamique qui est propre à l'extrême droite française, à l'extrême droite ou à certains mouvements au sein de l'extrême gauche française. Il y a une tradition antisémite en France qui a compté parmi les plus grands antisémites comme Édouard Drumont, par exemple, hein, élu député d'Alger au cap de ce siècle. Mais la Shoah, c'est d'abord et avant tout un projet nazi, un projet idéologique, politique, militaire, ancré dans l'idéologie nazie. Et donc, si on aborde la question de la Shoah en France, il faut arriver à percevoir ce qui est du ressort du projet nazi, qui s'est déroulé là, mais si on va peut-être en parler tout à l'heure, qui prévoyait de s'étendre partout, la sphère d'influence nazie allait s'étendre, à court ou moyen terme, hein, on le sait, hein, dans les pays décrits dans le protocole de la conférence de Wannsee en janvier 1942, vous avez y compris l'Irlande, vous avez l'ensemble des trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie, vous avez la Suisse, enfin vous avez une sphère beaucoup plus large que la seule échelle continentale à proprement parler des pays directement ou indirectement sous domination nazie. Un projet nazi continental d'extermination physique décidé à partir de l'automne 1941, mais qui prolonge des politiques d'essence antisémite antérieures et qui, dès 1933, avec l'avènement du Troisième Reich, vont être progressivement mises en œuvre. Bon. Il y a une dynamique qui s'enclenche depuis 1933 et fondée dans l'idée, ancrée dans l'idéologie nazie telle qu'elle est théorisée par Hitler dans Mein Kampf plus d'une décennie avant. Et puis vous avez donc parallèlement l'imbrication d'une dynamique qui est celle, alors on dit pudiquement du gouvernement de Vichy, bon, de l'État français de l'époque, qui renverse dans ce contexte de défaite militaire dont vous venez de parler la Troisième République chancelante, avec son propre agenda et avec sa propre idéologie, où à Vichy se mêlent à la fois les tenants d'une vieille extrême droite d'essence maurrassienne, hein, et puis des jeunes bureaucrates, technocrates, brillants, qui avaient éclos sous la Troisième République, hein, René Bousquet, et qui vont, au sein de l'État français, éclore et se draper dans ses habits du nouveau régime pour faire carrière et transformer et participer à l'abattement de la République et à la transformation du pays. Donc vous avez différentes dynamiques qui s'enclenchent et c'est vrai que je reviens pas sur ce que Marc Bloch, dont il faut dire et redire combien son livre « L'étrange défaite » reste un ouvrage fondamental, non seulement pour parler de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt de la fragilité d'une démocratie et de l'écroulement en quelques semaines d'un régime et d'un pays. L'étrange défaite. Bon. Ce cap, cet automne 40, il est de ce point de vue-là tout à fait significatif, où vont se mettre en place des deux côtés de la ligne de démarcation à l'échelle du territoire français, des politiques qui tiennent à la mise en œuvre des projets nazis, et parallèlement, et sans forcément de connexion étroite, une politique propre à l'État français qui aboutit à l'adoption du statut des Juifs et le lendemain à la promulgation de ce décret, de cette loi, je ne sais, qui prévoit désormais l'internement possible de tous les Juifs étrangers en France et qui va être un des actes majeurs dans ce développement de l'internement en France, dont il faut redire l'importance, plus de 200 camps d'internement sur tout le territoire, dont un certain nombre ici en Haute-Garonne, et plus de 600 000 internés, pas tous juifs, mais pour beaucoup juifs, placés dans ces camps directement, pour la plupart d'entre eux, géré par l'administration française. Donc, cette politique de l'État français, cette politique antisémite, elle ne résume pas la politique autoritaire, xénophobe et anti-républicaine du régime de Vichy, mais elle va être une des composantes importantes de cette politique et elle va être dès lors accentuée par la collaboration, le principe même de la collaboration dans lequel l'État français s'est engagé, que la rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire, en ce même automne, symbolise. Je ne vous ferai pas une lecture expurgée et synthétique des travaux de Laurent Joly, qui est aujourd'hui sans doute le meilleur spécialiste français de cette politique antisémite, qu'il a très bien résumé dans cet ouvrage « L'État contre les Juifs », qui doit être, je l'espère, disponible ici, mais qui montre bien ces différents enchaînements de législations qui s'enchaînent, qui aboutissent à l'exclusion, à l'internement, à la stigmatisation, et qui vont être des rouages essentiels quand, à partir de l'été 1942, va se mettre en place ce que les nazis appellent la solution finale de la question juive, c'est-à-dire le début de la déportation massive depuis la France des populations juives, dont les contours vont être négociés entre les responsables nazis et les responsables de l'État français, des négociations au cœur desquelles on va retrouver un homme comme René Bousquet, et dont les conséquences vont être tout à fait majeures. Et on a ici tout particulièrement à Toulouse, encore en 2022, à la fois commémoré et rendu compte de ce qu'avait été ce cataclysme des semaines de l'été 1942, où depuis la zone nord, mais aussi en zone sud, où, rappelons-le, pas un seul soldat allemand n'est présent, plusieurs dizaines de milliers de juifs, pour beaucoup étrangers mais aussi français, et notamment les enfants que le régime de Vichy ne protégera pas et livrera sciemment au dessein nazi. On insiste beaucoup depuis le début de la rencontre, et c'est l'intitulé même de la rencontre, sur l'antisémitisme, mais il faut redire aussi combien c'est un prisme, c'est un biais pour percevoir ce qu'est le judaïsme, la présence juive, de la même manière que la persécution des juifs ne doit pas nous empêcher, et je tiens à le faire ici tout particulièrement à Toulouse aussi, que au-delà de la collaboration qui engage les autorités, l'administration et une partie de la population, une autre partie de la population française, qu'elle partagea ou pas un soutien aux autorités de l'État français ou qu'elle partage des préjugés antisémites, vont malgré tout, au moment de cet été 1942, s'élever contre les conséquences de cette politique, s'émouvoir fortement de ses conséquences et, à l'image de Mgr Saliège, publiquement en dénoncer les funestes conséquences.
Alors je vais me tourner vers Jonathan pour revenir un petit peu en arrière dans le propos. Jonathan, pour comprendre quand et comment l'antisémitisme devient politique, vous l'avez abordé dans votre intervention précédente, j'aimerais que vous détailliez un petit peu quand même comment s'opère le passage de l'antijudaïsme à l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez faire un retour sur cette généalogie du passage de l'antisémitisme religieux à l'antisémitisme nationaliste et racial, je dirais.
Oui, alors... Le passage, bon, déjà le terme antisémitisme, il faut l'entendre comme un terme englobant qu'on utilise par facilité de langage, mais qui définit beaucoup de phénomènes de haine, d'hostilité à l'égard des juifs, qui sont de judéophobie. Enfin, plusieurs termes sont possibles pour définir la manière dont on s'en prend aux juifs et que globalement on l'a rassemblé parce qu'il fallait bien un mot sous le terme antisémitisme. Bien que historiquement, originellement, le mot antisémitisme a été inventé donc en 1879 en Allemagne, à Berlin, par un journaliste Wilhelm Marr, qui lui-même était antisémite. C'est-à-dire que le mot a été inventé, revendiqué, porté sur la scène publique par les antisémites qui voulaient se trouver un mot pour se définir et qui d'ailleurs le mot répondait à une véritable demande puisque très rapidement il est abordé, vulgarisé, popularisé par Drummond en France, par exemple, mais dans de très nombreux pays en Europe. Et par exemple, l'année d'après son invention, il est déjà dans les journaux russes, les journaux tsaristes. Donc le mot antisémitisme est déjà est historiquement un mot revendiqué, glorieux pour les antisémites. Ce qui a beaucoup changé, et fort heureusement à travers le temps. Aujourd'hui, plus personne, ou en tout cas rarement dans les pays européens, on se revendique et s'assume antisémite. Et on n'aime pas trop être considéré de la sorte, quand bien même parfois on est très antisémite, comme certains, mais qui ne se disent pas antisémites. Donc, déjà, je voulais juste donner ces éléments. Il a été très difficile pour moi et pour nous, les gens avec qui j'ai travaillé dans l'écriture de cette série documentaire, de définir le moment de passage entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Déjà, parce que les historiens ne sont pas d'accord déjà entre eux, et tant mieux. Et donc, il fallait choisir auprès de qui on allait se référer. Lui-même, parce que là, j'ai vu que les livres de Léon Poliakov sur l'histoire de l'antisémitisme, lui, n'a pas défini un moment tournant, mais d'autres l'ont fait. Alors, je vais plutôt que d'en choisir un, là, je vais en évoquer peut-être certains, notamment, par exemple, pour David Nirenberg, qui est un universitaire américain, le moment de bascule entre l'antijudaïsme, qui donc serait une haine, une détestation des juifs en raison de leurs pratiques religieuses, à un antisémitisme racial, se fait au moment de l'inquisition espagnole, au moment de l'invention des lois de pureté de sang. Donc c'est la première fois que même les juifs convertis sont continuellement considérés comme juifs parce qu'ils ont en eux le sang impur, le sang des meurtriers de Jésus. Donc pour lui, et d'ailleurs même certains disent que le mot raza, le mot race, a été inventé en Espagne à ce moment-là. Donc voilà, par exemple, un moment de bascule. Dans le premier propos qui était le mien à la première question, j'évoquais le temps des croisades. Par exemple, l'historien Joël Kotek, lui, définit ce moment-là comme le moment tournant. C'est-à-dire qu'on ne déteste plus les juifs, comme il le dit, seulement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adeptes d'une religion honnie, détestée, par les autres religions, donc il fait référence aux deux autres monothéistes. Donc on ne déteste plus les juifs seulement pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc c'est le moment d'apparition des accusations délirantes, que ce soit ce que j'évoquais, accusations de crimes rituels ou de déicides. Et donc pour lui, c'est le moment tournant. Donc voilà, et après pour d'autres, c'est clairement le 19e siècle avec l'apparition des théories racistes, des théories raciales, et c'est ce moment-là. Mais j'ajouterai un dernier mot sur ces deux termes qui me semble très important, c'est que l'un ne vient pas, dans tous les cas, l'un ne vient pas remplacer l'autre. L'antisémitisme ne vient pas effacer l'antijudaïsme, il vient s'ajouter, ça ajoute une nouvelle couche. Mais il n'y a pas de bascule magique où l'antijudaïsme théologique disparaît pour laisser place à un antisémitisme racial.
Alors justement, pour vous vous prendre à contre-pied ou au rebond. Je voulais effectivement qu'on se situe par rapport, pour ceux qui ont vu la série ou ceux qui la verront, on est dans l'épisode 3 quand la haine devient raciale. Et justement, sur cette question de racialisme, avec des guillemets, je voulais que vous preniez le temps de nous expliquer un peu plus comment ce courant de pensée, on est du 12e siècle, 19e, pardon, issu de la théorie des races, est né et a permis de justifier quand même par la suite la colonisation, l'esclavage, l'apartheid et bien sûr la Shoah. Donc est-ce que vous pouvez quand même dire un peu plus de choses sur la construction de ces idées raciales?
Je peux en tout cas évoquer, on a fait le choix par exemple dans le documentaire d'évoquer bien sûr l'un des plus grands promoteurs de l'idéologie raciste qui était Gobineau, et donc la manière dont il y avait cette obsession notamment dans ces courants pseudo-scientifiques de classifier et donc de pousser jusqu'à cette classification où, comme par hasard par ailleurs, c'est plutôt les Européens blancs qui sont dans des positions supérieures et les Noirs dans une position inférieure, et puis l'invention donc du coup de la race sémite et de la race aryenne, et que ça aussi c'est quelque chose qui avait une pignon sur rue, qui était vraiment un courant pseudo-scientifique aujourd'hui mais qui était considéré comme scientifique à l'époque et qui a fait beaucoup de dégâts. Moi je ne suis pas non plus spécialiste de l'histoire des théories raciales, mais ce que je peux dire par exemple c'est que l'un de ceux qui l'a le plus promu, vulgarisé en France, c'est aussi le sujet particulièrement de la France, c'est Renan, dont se pose la question de la manière de célébrer le bicentenaire là, cette année, puisque celui qui a vraiment vulgarisé la notion de race aryenne et de race sémite, à ce moment-là, c'est lui, en France. Et que c'est un sujet qui est intéressant aujourd'hui à débattre sur la manière de commémorer cet homme dans l'année à venir, même si après il s'est un peu départi de cette idéologie raciale. Donc elle apparaît au 19e siècle, au courant 19e siècle. Elle rencontre un certain succès. Elle est justifiée, promue de différentes manières. Et un des éléments que je pourrais évoquer, qui fera référence à ce que j'ai dit au début, parce que c'est intéressant de faire le lien, sur la question du nez juif. Donc, rappelez que la manière dont il apparaît au XIIe siècle, en Allemagne d'ailleurs, à Cologne, comme référent dans l'art chrétien. Et donc, on représente les Juifs avec des nez juifs à ce moment-là. Dessinés, on leur grossit, on les animalise, on les exagère pour l'identifier d'ailleurs, et pour que d'un simple coup d'œil, en regardant un tableau, on peut identifier qui est juif dans le tableau. Parce que dans tous les cas, il n'y avait pas d'autre manière de les distinguer. Ils n'avaient pas le phénomène des papillotes et de la figure rabbinique telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Donc c'était un des moyens de les distinguer. Bon, et ben au 19e siècle, dans les théories raciales, avant les caricatures de l'affaire Dreyfus et de la fin 19e, Galton, qui est un photographe, un anthropologue pseudo-scientifique qui s'inscrivait dans l'idéologie raciale, veut définir un type juif. Et donc, dans une galerie de photographies, il veut montrer comment les Juifs ont un type juif. Et donc, il essaye de prouver scientifiquement, c'est complètement grotesque, qu'il y a un nez juif. Et on voit bien ce qui était dans le folklore médiéval et dans la construction de l'art chrétien est recyclé par l'antisémitisme racial pseudo-scientifique de ce moment-là.
Voilà, alors, pseudo-scientifique, puisque bon, juste avant de laisser la suite à Antoine, c'est avec sa permission, j'aurais juste repréciser, comme à chaque fois qu'on est sur ces questions raciales, il est scientifiquement prouvé qu'il n'y a qu'une seule et unique race, la race humaine. Voilà, j'aurais pas qu'on comprenne.
C'est dur d'enchaîner, Jean-Luc. Donc on a bien vu, on a bien compris, Olivier, merci de ces explications. Merci Jonathan, qui a un cadre plus large, géographiquement, historiquement. Et que lorsque l'on réduit l'échelle et qu'on se concentre sur la Seconde Guerre mondiale, sur cette acmé d'une intensité terrible, il faut croiser tous ces facteurs. Mais une question quand même doit nous interroger. Vous l'avez dit, Olivier, on dit le régime de Vichy, c'est l'État français. Et en France, avant l'armistice de juin 1940, l'État ne connaît pas les Juifs. Ne connaît pas de juifs par rapport à des non-juifs, ne connaît pas de chrétiens par rapport à des non-chrétiens. Donc, question très, très pratique. Comment est-ce que l'on va désigner un juif? comment est-ce que l'État français né de la défaite va parvenir à établir des critères qui, au regard de l'administration, alors semblaient objectifs pour dire vous êtes juif, vous n'êtes pas juif. C'est une vraie rupture dans la tradition républicaine.
C'est une vraie rupture et en même temps le travail a été largement défriché par les bureaucrates et les idéologues nazis. Hein. Donc on a tous, enfin on peut avoir en mémoire, en tout cas ces schémas faits au moment des lois de Nuremberg en 1935, ces arbres généalogiques hein, qui permettent de distinguer à l'échelle des générations précédentes en fonction du nombre de grands-parents, de parents, qui est juif et qui ne l'est pas, qui est de religion juive, qui en France, hein, dans le statut des juifs, va être de race juive. Donc il y a tout ce travail où on est dans ce recyclage, hein, effectivement, de cette approche eugéniste, hein, née au XIXe siècle, où la France n'est pas absente, hein, tu l'as rappelé, et qui va bien nourrir les travaux des juristes, des fonctionnaires, des bureaucrates. Et c'est là aussi où la Shoah n'est pas le fait que d'un bourreau sanguinaire tel qu'on se le représente, les armes à la main ou déversant des cristaux de zyklombé dans une chambre à gaz de Birkenau. Le projet génocidaire, on parle ici de la Shoah, mais par extension on peut l'étendre à tous les génocides, dans ces mécanismes des génocides, il y a non seulement le criminel qui tue, mais il s'inscrit dans un environnement bureaucratique, intellectuel, idéologique, qui dépasse de très loin le seul criminel qui va procéder au meurtre. Il est assis sur des raisonnements, des pratiques, un cadre juridique aussi, parfois, qui facilite en tout cas le passage au crime, porté aussi dans un environnement lié à la propagande qui va, sur le plan des opinions publiques, faciliter, accompagner le principe de la mise à mort. Bon, il faut dire aussi que avant d'en arriver au régime de Vichy, et on le sait bien ici, les années 30 ont été traversées non seulement par l'avènement du Troisième Reich, de l'État fasciste italien, mais aussi par une poussée nationaliste intense, par une montée en puissance du racisme, de l'antisémitisme. Il faut employer un mot qu'on oublie aujourd'hui et pourtant qui reste très pesant dans un certain nombre de débats de société, la xénophobie, c'est-à-dire le ressentiment et la haine envers l'étranger, envers l'autre. Eh bien, ces facteurs-là vont monter dans les opinions publiques de très nombreux pays. Et en réponse, et au-delà de l'idéologie, aussi par une montée en puissance de la violence physique. Hein, il ne faut pas déconnecter la violence politique, la violence idéologique de la violence physique. Avant d'en arriver au génocide et au massacre de masse, il y a eu toute une montée en puissance aussi dans les différentes opinions, que ce soit dans la République de Weimar, que ce soit aussi en France, hein, d'une montée en puissance de ces mouvements factieux qui vont aussi prendre pour cible les métèques. Hein, pardon, enfin, je veux dire, je ne vais pas prendre les mêmes précautions oratoires que Jean-Luc a employées, mais c'est la vérité aussi, qui vont donc dénoncer l'étranger et aussi la figure de juif et qui vont les dénoncer, y compris en s'en prenant physiquement avec une grande violence à eux, et notamment ici en France, et suscitant d'ailleurs à la fois une évolution du droit, hein, la loi Marchandeau qui vient notamment pour la première fois dénoncer cette mise en pratique des mouvements fondés sur la violence des sens racistes, mais aussi susciter la création et en tout cas la montée en puissance d'un certain nombre d'organisations, comme la LICA par exemple, hein, qui alerte sur ces dérives auxquelles nos républiques ont été confrontées.
Alors je vais revenir depuis le début, je suis celui qui revient toujours en arrière, moi. Mais, on a parlé de racialisme tout à l'heure, au tout début, Olivier évoquait la tradition antisémite française, on va y revenir peut-être proche de nous. Pourtant, Jonathan, la France a été le premier pays à émanciper les juifs, je trouve que c'est intéressant de regarder ça, qui était beaucoup, enfin, assez peu nombreux en France à l'époque, mais est-ce qu'on peut parler un peu de cette émancipation, pardon, en 1791, et que vous abordez, c'est la fin en fait du second volet de votre documentaire, pour finalement arriver au statut des Juifs en 1940. Quoi.
Oui, alors, en effet, c'est la fin du second épisode de la série documentaire, parce qu'il était important pour nous de, à chaque fois, terminer chacun des épisodes par un moment tournant. C'est un tournant dans l'histoire de l'antisémitisme, mais c'est surtout un tournant dans l'histoire juive mondiale, puisqu'en effet, pour la première fois, quelque part, enfin, il y a également les États-Unis, mais en tout cas, pour la première fois, quelque part, ils sont installés depuis longtemps dans un statut d'infériorité, ils acquièrent l'égalité. Les Juifs deviennent comme les autres. Pas en 1789, hein, pas au moment de la déclaration des droits de l'homme, mais en 1791. Donc il y avait quand même eu, et c'est toujours important et intéressant de le rappeler, 2 ans de bataille pour que l'égalité leur soit accordée. Parce qu'autant en 89, les bourreaux, les comédiens, les protestants deviennent égaux, mais on refuse d'ailleurs pour les esclaves également, mais on refuse d'accorder aux juifs l'égalité. Et il faut 2 ans de bataille, 2 ans de bataille dans lequel d'ailleurs les juifs se sont constitués comme militants pour l'égalité et pour rappeler à l'Assemblée, qui était majoritairement hostile à l'émancipation des juifs, pour leur rappeler de rester fidèle à leur déclaration des droits de l'homme et de rester fidèle à la notion de l'universel et d'accorder l'égalité. Donc finalement c'est obtenu grâce à notamment à des personnalités fortes de l'Assemblée comme l'abbé Grégoire, grâce aussi notamment par exemple à Robespierre, hein, dont on oublie le rôle central dans l'émancipation des juifs. Mais donc oui, la France devient le premier pays à accorder l'égalité aux juifs, et paradoxalement le premier pays où il y a des mouvements de masse contre les juifs comme nulle part ailleurs. C'est-à-dire que durant l'affaire Dreyfus, jamais aucun autre pays en Europe n'avait rassemblé des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue pour crier « mort aux juifs », ce que raconte très bien Pierre Birnbaum dans le livre « Le moment antisémite ». C'est un moment antisémite et c'est un moment clé de l'histoire de la France. Mais c'est aussi peut-être paradoxalement, puisque j'essaye de faire le lien, et il existe, parce que c'est le premier pays qui les a émancipés et parce que la question de la Révolution française était centrale dans l'histoire de la France, que le mouvement antisémite s'est autant développé par une démarche et une dynamique contre-révolutionnaire, malgré tout. Donc c'est l'émancipation a été l'objet d'un complotisme à l'égard des juifs comme étant responsable, on va dire, de la chute de beaucoup de gens par les bouleversements, qui fait que c'est à la hauteur de le caractère spectaculaire de ce changement sociétal, civilisationnel en France, et ben le retour de bâton a été aussi à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, l'antisémitisme se manifeste de manière beaucoup plus violente dans les moments de crise ou de mutation. Et la société française a été traversée autant, voire avant les autres, par cela. Donc l'antisémitisme s'y est développé aussi avant.
Alors peut-être pour faire le lien avec la suite, Jonathan, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur un épisode très symbolique d'antisémitisme et puis de la falsification. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur expliquer rapidement ce que c'était que cette supercherie des protocoles des sages de Sion et puis des impacts qu'ils ont pu avoir jusqu'à pratiquement aujourd'hui?
Oui, alors dans la fabrication du documentaire, on s'est demandé quelle place accorder au protocole des sages de Sion dans l'histoire de l'antisémitisme. Et moi, ce que j'ai plus découvert, ce que j'ai appris, qui m'a le plus marqué, c'est bon, ce faux créé très probablement par la police tsariste au début du XXe siècle, qui donc accuse les juifs d'un complot mondial, ne rencontre pas un énorme succès au moment où il sort. Il faut attendre la chute du tsar pour qu'il devienne un outil politique là-bas par là encore une fois les contre-révolutionnaires, pour dire que la révolution bolchevique est une révolution juive, et c'est déjà prouvé dans les protocoles. Mais ce qui a le plus marqué, c'est à quel point il a été central très important dans les discours antisémites en Allemagne après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a notamment quelqu'un qui a fui d'ailleurs la Russie tsariste, qui est Alfred Rosenberg, qui va emmener avec lui les protocoles, en tout cas s'occuper que ce soit traduit en allemand, l'éditer, le diffuser. Il n'est pas le seul, mais il a joué un rôle important dans sa diffusion. Et c'est en Allemagne qu'il rencontre un succès phénoménal dans les années 20, et après, bien sûr, surtout dans les années 30. Donc, voilà le rôle qu'il a pu jouer à ce moment-là, et on le retrouve aujourd'hui dans plein d'endroits à travers le monde, dans une capacité de vente phénoménale, puisqu'il a été particulièrement traduit dans le monde arabo-musulman dans les années 50, et il est devenu un best-seller là-bas. Il ne l'est plus fort heureusement en Europe, mais il est ailleurs dans le monde encore aujourd'hui. Donc c'est assez impressionnant de voir, voilà, on parle de la manière dont les accusations sont recyclées, dont les discours sont recyclés. Là, c'est carrément un même document qui n'est pas recyclé, mais qui circule fortement.
C'est la source de la théorie du complot juif ou...
C'est un des éléments qui a beaucoup popularisé la théorie du complot mondial. Mais la théorie du complot mondial n'est pas apparue avec les protocoles. C'est pas la source. Par exemple, dès Alexandrie, dont je parlais au tout début, en l'an 38, il y a déjà l'accusation par les Égyptiens à l'égard des Juifs que s'ils sont tombés, si l'Égypte est tombée entre les mains des Perses, des Parthes, des Romains, c'est la faute des Juifs et qu'il y a une forme de misanthropie de la part des Juifs qui veulent faire chuter tous les autres pour contrôler le monde. Donc l'accusation de complot est bien plus ancienne, mais on va dire que c'est les protocoles qui est le document qui lui a permis de faire les ravages les plus importants.
Même audio, une mémoire sonore.
On voit bien tous ces aliments idéologiques, culturels, religieux, ces processus qui aujourd'hui encore alimentent l'antisémitisme, et on aura l'occasion de revenir sur cette actualité d'antisémitisme dans la dernière partie de cette table ronde. Mais je pense qu'il est important à cette heure de la discussion, Olivier, de nous dire le bilan de la Shoah. C'est-à-dire que nous avons vu les tenants qui ont conduit à cet événement dramatique de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, je sais que c'est une question immense et une soirée n'y suffirait pas, mais en quelques minutes, les étapes de la mise en place d'une politique génocidaire à partir de cet antisémitisme, le nombre de juifs qui ont été assassinés au cours de la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe.
J'ai peur de comprendre la question et d'avoir 3 minutes pour faire l'enchaînement des séquences pour arriver à ce bilan. Et en même temps, en ayant conscience que, de façon lapidaire, jeter des chiffres qui sont connus est un exercice qui rend très peu compte, voire même de façon fallacieuse, la réalité humaine qu'il y a derrière. Donc je le ferai. Je répondrai à la question, mais en ayant d'emblée exprimé cette prudence. Ce bilan, il est posé depuis la Seconde Guerre mondiale, et sans finalement, depuis, avoir beaucoup évolué. Au moment du procès de Nuremberg, ce chiffre des victimes juives assassinées par les nazis, il est d'emblée fixé entre 5,5 millions et 6 millions, et ce chiffre symbolique de 6 millions de victimes, il est aujourd'hui dans la conscience collective, mais rappelons-le, il a depuis été précisé, travaillé, critiqué au sens noble du terme par les historiens, par les démographes. Donc ça n'est pas un dogme, hein, contrairement à ce que les négationnistes veulent nous faire croire. C'est pas un dogme qui a été fixé par les alliés et qui depuis est répété. Non, ce chiffre-là aujourd'hui, et la micro-histoire nous y aide, il est précisé à l'échelle des territoires, des pays, des régions, pour mieux étayer, si vous voulez, ce bilan. Il est ce bilan de 6 millions de victimes, il est le reflet aujourd'hui du travail des historiens qui n'ont cessé de travailler dessus depuis 80 ans. Voilà. Donc, ce chiffre de 6 millions de victimes assassinées, il est le reflet de différentes politiques qui vont effectivement s'enchaîner tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Même si la politique antisémite du régime nazi ne débute pas avec le début de la Seconde Guerre mondiale, mais débute dès 1933. Mais rappelons-le simplement rapidement, et je reprends ici le mot de l'historien Tal Brutman, le génocide des Juifs et la compréhension du génocide des Juifs, on ne peut l'avoir que si on restitue ce qu'il appelle cette dynamique assassine. Il n'y a pas une linéarité entre Mein Kampf et la libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945. Il y a un enchaînement de politiques à la fois globales et régionales qui aboutit à ce bilan criminel. Il est aussi le reflet, d'abord et avant tout, du projet nazi qui est de se débarrasser des Juifs. La solution finale de la question juive, ça n'est pas une expression qui est forgée par les nazis en 1941. Elle est antérieure, elle date de la fin des années 30 et elle vise alors à encourager, susciter, provoquer le départ massif, complet, des Juifs depuis le territoire du Reich. Se débarrasser des Juifs, c'est d'abord entre 1933 et 1941, fin de l'émigration légale depuis le territoire du Reich, c'est se débarrasser des Juifs en provoquant cette émigration massive qui va rentrer très progressivement en marche, si je puis dire, et de façon de plus en plus exponentielle, notamment à la fin des années 30 ou à la suite de la nuit de cristal en 1938, du pogrom de la nuit de cristal, là aussi avec des guillemets, c'est un mot forgé par la propagande nazie, le terme nuit de cristal. Image un peu romantique comme ça de ces vitres brisées des magasins. Bon, c'est un pogrom. C'est un pogrom qui vise par la terreur à provoquer le départ des Juifs allemands qui sont là pour certains depuis des siècles hein, et qui ne voyaient guère de raison de quitter la terre pour laquelle ils avaient lutté, hein, y compris pour beaucoup dans l'armée allemande. Donc l'émigration va s'accentuer et en 1900, quand est promulguée la fin de l'émigration légale, c'est près de la moitié des plus de 500 000 juifs qui ont réussi à quitter le territoire du Reich, alors même que, quand on parle d'émigration, enfin je veux dire, ça tient plus de l'expulsion que de l'émigration. Il y a toute une bureaucratie dont Eichmann a été un des rouages qui se met en place, notamment pour l'Autriche, mais c'est une entreprise de spoliation, de violence, hein, qui vise à provoquer le départ des gens. Donc c'est pas l'émigration est un mot qui vient en quelque sorte affadir la réalité humaine que recouvre ce processus-là, et je ne parle pas d'un point de vue humain pour ces hommes et ces femmes qui étaient en Allemagne chez eux. Émigration forcée. Les nazis, vous le savez, à partir du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, vont occuper un nombre sans cesse plus important de territoires. Une partie de ces territoires vont être annexés au Reich et donc la législation allemande va directement s'y appliquer. C'est le cas ici en Europe de l'Ouest, de l'Alsace et la Moselle qui vont être annexés au Reich. C'est le cas aussi d'une partie de la Pologne qui est démembrée et dont une partie occidentale du territoire va être fusionné au territoire du Reich. C'est le cas de cette ville d'Oswiecim hein, qui va rentrer dans l'histoire sous le nom d'Auschwitz. Pour le reste, les nazis vont prendre en main, coloniser ces territoires qu'ils considèrent à l'Est comme relevant de leur espace vital, hein, cette ancienne sphère d'influence des chevaliers teutoniques, hein, avec sans reprendre les épisodes passés du documentaire de Jonathan, mais qui recouvre là aussi vraiment sur le plan culturel des éléments beaucoup plus anciens, hein, qui là aussi rattachent le Troisième Reich à des mouvements à la fois culturels, politiques et idéologiques beaucoup plus anciens. Et dans ces territoires-là, à partir de septembre 1939, avec le démembrement de la Pologne, de l'Ouest, la partie orientale étant, elle, occupée par l'Union soviétique dans les semaines qui suivent, la mise en place d'une politique extrêmement brutale. Les premières violences contre les Juifs ne débutent pas avec la naissance des premiers centres de mise à mort à l'hiver 41. Elle est mise en place dès le début de l'occupation et du démembrement de la Pologne, avec la mise en place dans les mois qui viennent, qui suivent, de ghettos à l'intérieur desquels les Juifs vont être concentrés. Le principal ghetto, vous le savez, c'est le ghetto de Varsovie. Dans quelques semaines, on va commémorer le 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Ce sont plus de 450 000 Juifs qui vont être regroupés dans une toute petite partie de la ville de Varsovie, un peu moins de 3% de la superficie de la capitale, ex-capitale polonaise, dans laquelle plus de 400 000 personnes vont être regroupées et dans lequel les conditions de vie vont volontairement être rendues invivables, si vous voulez. Ce sont plus de 100 000 personnes qui vont mourir en 18 mois au sein du ghetto de Varsovie. La situation sera la même dans les autres ghettos. Donc, la mise à mort des Juifs va être le fait de ces conditions de vie infernales dans les ghettos. Elles vont être le fait aussi de ces exécutions de masse perpétrées par des groupes mobiles de tuerie, les Einsatzgruppen, qui, depuis la Baltique jusqu'à la Crimée, vont, à partir de l'été 1941, mettre en place des tueries de masse, pour l'essentiel des Juifs, mais aussi d'autres groupes vont être la cible des exactions et des politiques criminelles menées par les Einsatzgruppen, les Tziganes notamment, ou un certain nombre de cadres de l'armée soviétique, commissaires politiques. Les travaux du père Patrick Desbois nous ont permis non pas de découvrir ce qu'avaient été les crimes des Einsatzgruppen, qui, dès les travaux de Léon Poliakov, auxquels vous avez fait référence, avait bien mis en valeur. Mais en revanche, il a, dans l'espace public, largement mis la lumière sur l'action criminelle des Einsatzgruppen et la mémoire qu'il en subsistait aujourd'hui ou pas dans ces territoires. Ce bilan-là, ce sont plus d'un million et demi de Juifs qui auront été les victimes des Einsatzgruppen. Et puis, ce qui est aussi une des caractéristiques de la Shoah, c'est-à-dire ce mot hébreu qui, vous le savez, qualifie, en reprenant ce mot hébreu, de catastrophe, le génocide des Juifs, c'est la mise en place de centres de mise à mort, pour reprendre le mot de Raoul Hilberg, qui ne se résume pas à l'image que nous avons d'Auschwitz-Birkenau, du complexe d'Auschwitz, qui aujourd'hui, vous le savez, mes amis Yanis Ronner et Tal Brutman en ont le disent régulièrement, qui est un lieu tout à fait unique et singulier, à la fois plus grand camp de concentration du régime nazi et plus important lieu de mise à mort des Juifs d'Europe. Un lieu où sur 1 300 000 déportés, 1 100 000 sont des victimes, sont des déportés juifs, et où 1 000 000 de ceux-là, 1 000 000 de ces Juifs vont y être assassinés. Donc un lieu central, mais un lieu complexe qui présente un tout autre visage que celui des centres de mise à mort que les nazis vont créer, Belzec, Sobibor, Chemno. Des lieux qui sont des terminus ferroviaires, au bout duquel se trouvent des installations de tuerie massive. Ce sont plus de 3 millions de Juifs qui vont être assassinés dans ces lieux, où des techniques déjà utilisées dans le cadre de l'opération T4 ont fait le lien avec les théories eugénistes dont Jonathan a parlé tout à l'heure, pour liquider, c'est l'opération T4 qui de 1939 à 1941 va provoquer la mort de près de 300 000 malades mentaux ou handicapés ressortissants du Reich, c'est-à-dire allemands et autrichiens, ces techniques de gazage homicide qui vont être réutilisés, développés, amplifiés dans ces lieux que sont Belzec, Sobibor, Treblinka. Treblinka, c'est plus de 800 000 morts. C'est le principal tombeau des Juifs du ghetto de Varsovie, mais c'est un lieu qui présente un tout autre visage que cette complexité portée par le camp d'Auschwitz-Birkenau. Voilà, en termes de bilan, dans ce livre dont vous avez eu la gentillesse de faire écho, La Shoah au cœur de l'anéantissement, c'est vrai qu'avec Tal Brutman et Piotr Sivinski, le directeur du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, on a essayé de présenter un certain nombre de documents à la fois emblématiques de ce qu'a été ce processus idéologique, bureaucratique et aussi cette échelle humaine indissociable du point de vue des bureaux comme du point de vue des victimes et des témoins de ce qu'a pu représenter la Shoah.
Et c'est un ouvrage essentiel, et je ne le dis pas parce que tu es là, mais parce qu'il est extrêmement commode à l'usage, et je sais qu'il y a des enseignants dans la salle par exemple, et redonner les documents et les archives pour montrer à partir de quoi l'histoire s'écrit est une méthodologie importante. D'ailleurs, avant de revenir à Jonathan et avancer dans le déroulé de cette soirée, nous connaissons la spécificité du génocide des Juifs désormais. Grâce aux travaux des historiens, on reviendra au travail des institutions, aux documentaires, aux ouvrages, nous connaissons cette spécificité. Alors moi, dans cette enceinte du Conseil départemental de la Haute-Garonne, ma question sera sur en quoi cette spécificité est universelle. En quoi cette spécificité en fait une histoire de l'humanité, et en quoi y a-t-il dans sa transmission un projet universaliste essentiel?
C'est une excellente question. Là aussi, 3 minutes. Non, mais j'avais menti sur la réponse précédente, donc je vais être prudent pour celle-ci. Mais en même temps, pour moi, enfin, je pense pour nous, elle est essentielle, évidemment. Je serais beaucoup moins positif sur la reconnaissance actuelle et absolue de la spécificité de la Shoah. Je crois qu'il suffit de voir dans les salles de classe, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour voir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus que jamais, mais en tout cas aujourd'hui encore, la question de l'existence, de la singularité, des conséquences de ce qu'on a appelé la Shoah est un phénomène qui reste certes reconnu institutionnellement, socialement, culturellement, mais où en même temps une partie de la population de tous bords demeure sinon sceptique, voire hostile. Alors parfois sous le sceau d'un pseudo-humour, ou de théorie politique. Donc il faut être... Enfin, mon sentiment est beaucoup plus, de ce point de vue-là, mesuré. Un de ceux qui a le mieux parlé de ce lien entre la singularité de la Shoah, et de ce point de vue-là, pardon, je suis déjà long, voilà, mais c'est important de dire aussi que trop souvent aussi dans des discours officiels, ou chez des journalistes, des intellectuels, bon, ok, on reconnaît maintenant la singularité de la Shoah, on l'entend en tout cas, on se l'approprie, mais on la restitue aussi, finalement, dans une forme de grand méli-mélo, où on y adosse les persécutions et la répression qui a visé d'autres groupes sociaux ou des opposants politiques. Et où cette singularité de ce qu'est un génocide, c'est-à-dire depuis un nourrisson de quelques heures jusqu'à un vieillard centenaire, qu'on souhaite faire disparaître, que certains hommes ont voulu faire disparaître de la surface de la Terre, cet aspect-là est restitué sur le même plan, finalement, que la répression contre les résistants, des opposants politiques, des ressortissants de certains groupes religieux, les témoins de Jéhovah ou de minorités de groupes aux orientations sexuelles et autres, si vous voulez. On en fait une question universelle sans finalement passer l'étape de la singularité de ce qu'est un génocide. Bon. Et ça, sur le plan intellectuel et politique, ça pose de grandes difficultés. Mais la singularité, elle n'est pas là pour être affirmée et défendue comme une citadelle. Elle se pose d'abord parce que c'est une réalité historique. Ce qui n'empêche pas d'expliquer et de défendre que cette singularité-là n'empêche aucunement une reconnaissance d'une universalité du message et des conséquences de la Shoah. Elie Wiesel, dont je sais qui était venu à Toulouse ici il y a quelques décennies, maintenant il faut bien le dire, mais est un de ceux qui en a le mieux parlé. C'est-à-dire de cette façon de voir la Shoah, non pas seulement comme une affaire qui a visé les Juifs et dont les conséquences ne concerneraient que les Juifs, mais d'en voir effectivement une question qui intéresse l'humanité tout entière, parce que pour la première fois, un groupe, une nation, appuyée à des degrés divers par des États et des forces collaborationnistes, ont souhaité modifier le visage de l'humanité en retranchant, pas seulement intellectuellement, mais physiquement, physiologiquement, biologiquement, une partie de cette même humanité. Et c'est en ce sens qu'il y a un lien entre la spécificité de la Shoah et l'universalité de la Shoah.
Alors peut-être que justement, la question que je vais commencer à poser à Jonathan, mais que on souhaitait poser à vous deux, c'est après le bilan, j'avais formulé comment après Auschwitz, mais comment après le bilan apocalyptique qu'Olivier a dressé, qui aboutit à 6 millions de morts, le paroxysme de l'antisémitisme, comment après ça, l'antisémitisme est encore possible ?
Je tournerai la question à l'envers, parce qu'aujourd'hui on se la pose comme ça, mais comment on aurait pu penser qu'il allait disparaître juste après l'opération de la solution finale ? C'est-à-dire que, par exemple en Pologne, après-guerre, les survivants qui reviennent, pour une bonne partie, ils ont bien conscience que l'antisémitisme de leurs voisins polonais n'est pas disparu, parce qu'ils reviennent avec le statut de rescapés de la Shoah. Et donc pour beaucoup d'ailleurs, ils reviennent en Pologne, mais ils ont peur d'aller sur leur lieu d'habitation, parce qu'ils ont peur, à ce moment-là, de voir leur maison occupée et d'être l'objet de représailles. Il se trouve d'ailleurs que ça a été le cas pour certains. Et d'autres, d'ailleurs, ne décident de ne pas remettre les pieds en Pologne, en Allemagne après-guerre, et cherchent d'ailleurs, et ça crée toute la problématique aussi de ces centaines de milliers de réfugiés qui vont aller aux États-Unis, en Israël, mais qui ne veulent pas remettre les pieds là-bas. Donc ça veut bien dire qu'en tout cas, ceux qui ont subi la Shoah au sortir de la guerre ne se sont pas dit l'antisémitisme il va disparaître, ou il a dit parce que l'horreur a été le plus paroxystique, a été atteint. Donc voilà pourquoi en fait cette question-là, elle ne se pose pas si on la regarde à hauteur d'histoire, et que si aujourd'hui on se dit ça, voilà, il y a la phrase de Bernanos là, Hitler a déshonoré à jamais l'antisémitisme, mais parce qu'elle est mal comprise, on l'utilise après coup mal, on comprend mal ce qu'il veut dire par là. Donc voilà, c'est rassurant de se dire, mais comment de se poser la question. Il est rassurant de se poser la question, mais en réalité, la question ne se pose pas si j'essaie d'y répondre en deux minutes, et je ne crois pas que c'est seulement pour me dérober.
On aimerait que l'histoire soit différente, mais on est face à une réalité, à un constat. C'est vrai que l'antisémitisme politique a été décrédibilisé à partir de force, à partir de la défaite du nazisme en 1945, mais force est de constater que, et en Allemagne, et notamment en France, sous la forme de groupuscules, les partisans du nazisme et qui véhiculaient cet antisémitisme, leur voix s'est estompée, mais elle n'a pas disparu. Et elle va périodiquement, dans les années 50, dans les années 60, dans les semaines qui suivent aussi la libération et le retour des familles juives à Paris, vous avez des manifestations de locataires qui manifestent avec des propos violemment antisémites face aux familles juives qui demandent à récupérer les logements qui ont été occupés de fait légalement ou non, mais en tout cas qui demandent simplement à récupérer leurs biens. Donc l'antisémitisme, on aimerait qu'il disparaisse. Il a été un temps décrédibilisé politiquement, mais il n'a aucunement disparu. Mais il faut là aussi prendre un peu de distance et se souvenir qu'il y avait eu une grande émotion qui avait été suscitée notamment en France, en Europe de l'Ouest, après les pogroms criminels qui avaient secoué l'Europe de l'Est à Kishinev et d'autres. Il y avait eu de grandes manifestations, un mouvement d'opinion très large en faveur des populations juives martyrisées. Ça n'avait pas empêché ni l'avènement du régime ni de l'État français, ni l'avènement de ces régimes-là. Donc la question de la connaissance, elle n'épuise pas la question de la conscience. C'est-à-dire que la connaissance est une arme, mais ce n'est pas une arme absolue. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui tient à l'environnement culturel, aux valeurs véhiculées, à la capacité des démocraties aussi à se défendre face à ces mouvements-là, à tenir bon. Voilà. Et donc, on aimerait que l'histoire soit différente, hein, je reboucle. On aimerait que l'histoire soit différente, mais force est de constater que l'antisémitisme n'a pas disparu. Et il faut aussi être conscient que ça peut sembler désespérant, et ça l'est quelque part, et surtout si on s'inscrit dans le temps long, comme Jonathan l'a fait dans ce si beau documentaire, enfin, si fort documentaire. Mais en même temps, c'est, vous parliez des enseignants tout à l'heure. Bon, je veux dire, on est aussi porté par une espérance. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, on pourrait être écrasé par le poids de l'histoire et d'une forme de répétition, de mutation, où des éléments très anciens sont recyclés. Mais en même temps, il y a des progrès. Il y a des progrès dans cette conscience universelle. Les différentes. Je pense qu'il faut là aussi, bon, je ne suis pas là pour restituer les grandes voix d'Elie Wiesel ou de Simone Veil. Mais Simone Veil, en tant qu'acteur politique, a souvent mis en avant le fait que pour elle, une de ses plus grandes progrès de l'humanité, ça avait été la construction européenne. Non pas comme une digue absolue, et on en vit aujourd'hui les limites, elle arrivait face à des régimes plus ou moins autoritaires au sein de l'Union européenne. Mais malgré tout, l'Europe, elle a permis de rassembler la France et l'Allemagne qui, en quelques décennies, s'était fait trois fois la guerre. Donc, il y a un certain nombre de progrès. Si on reprend les enquêtes d'opinion, qui sont aussi parfois des facteurs qui peuvent être tout à fait nous désorienter, en tout cas. Quand vous reprenez des sondages d'après-guerre, les pourcentages qui montraient une hostilité à l'avènement, comme président de la République en France, d'un président juif, mais c'était de... Alors j'ai les chiffres ici, mais je ne vais pas me replonger dans mes notes, hein, j'ai déjà parlé trop longtemps, mais c'était statistiquement très important, et c'est plusieurs dizaines de pourcents de la population qui était hostile à la présence d'un juif comme président de la République. Aujourd'hui, ce pourcentage-là est très fortement réduit. Ça ne veut pas dire que l'antisémitisme, dans ses différentes formes, est disparu, mais il y a des progrès.
D'ailleurs, avant d'aller vers la dernière séquence de cette soirée sur les programmes qui sont mis en place, sur les projets qui peuvent être portés. Nous entrons ici à Toulouse dans un terrible et triste cycle commémoratif qui depuis 11 années nous amène à commémorer les victimes des attentats islamiques qui ont eu lieu ici il y a 11 ans contre des militaires et contre des enfants juifs. C'est-à-dire que cet antisémitisme tue toujours, parfois en empruntant à d'autres terminologies. On l'évoquait en préparant cette rencontre, le terme de l'antisionisme qui est souvent le cache-nez d'un antisémitisme moderne. Peut-être ce n'est pas vraiment une question, mais pour vous deux, chacun avec votre regard et l'acuité que vous portez sur cela, cette évolution de ces formes de l'antisémitisme qui tue, parce que si l'on voit que, et fort heureusement, certains mécanismes collectifs peut-être reculent, eh bien l'antisémitisme tue ici même, et cette période commémorative nous le rappelle douloureusement.
Oui, il y a une situation paradoxale par rapport à deux interventions précédentes. C'est vrai que, à la fois, nous sommes dans une situation, si on s'inscrit dans le temps long, où l'antisémitisme est le mieux combattu, le mieux condamné, le mieux pénalisé, en tout cas dans les endroits où des communautés juives vivent. On n'a jamais vu ça, il n'y a plus d'antisémitisme d'État, excepté peut-être en Iran, et encore c'est une forme d'antisémitisme particulière, mais bon, c'est le cas, où il y a des communautés juives vivantes, c'est plus le cas. Et on peut porter plainte et on peut le condamner. Et il n'empêche que dans certains de ces territoires-là, où il y a les communautés juives les plus importantes, il y a le retour d'un antisémitisme meurtrier protéiforme. En Europe, particulièrement au nom de l'islamisme radical, mais également, ça a été le cas en Allemagne, à ALE, au nom de l'extrême droite, mais c'est surtout au nom de l'antisémitisme islamiste radical. Et aux États-Unis, pour la première fois, plusieurs crimes antisémites au nom de l'ultra-droite. Donc deux endroits, la France, l'Allemagne moins, mais la France en tout cas et les États-Unis, où il y a des communautés juives importantes. Et où l'antisémitisme est dans l'opinion publique au plus bas de son histoire. Parce que c'est vrai que dans les années 40, mais même, moi j'ai été frappé, c'est un extrait dans le film, dossier d'écran de 1968 avec Elie Wiesel, un sondage sur l'élection d'un président juif, est-ce que ça vous dérange ou pas? Là, il y avait plus de 40% des Français, on est en 68. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bas. Dans ce sondage-là, si on voit à travers l'histoire, on n'a jamais été aussi bas. Donc il y a une situation très paradoxale avec le retour d'un antisémitisme meurtrier, mais avec l'expression d'un antisémitisme meurtrier qu'il est difficile à combattre et qu'on aurait tort de croire que le combat mené contre l'antisémitisme est le même lorsqu'il s'agit de s'attaquer à ceux qui veulent lui faire prendre une dimension criminelle et à ceux qui sont à l'état de préjugés ou d'agression ou de violence. Ces différentes formes d'antisémitisme dont les moyens à mettre en place pour lutter sont différents, sont complémentaires, et à chacun de jouer sa partition. Mais croire que les dispositifs, mais ça, moi, c'est moins mon cœur de fabrique, je n'étais pas mon métier là, mais les dispositifs pédagogiques permettent de lutter contre l'antisémitisme, mais croire simplement dans les dispositifs pédagogiques pour lutter contre l'antisémitisme meurtrier et serait une erreur et vice-versa. Donc voilà, donc c'est des combats très différents. Le combat contre l'antisémitisme meurtrier n'est pas simplement à mener de manière à combattre l'antisémitisme. Voilà ce que j'aurais voulu ajouter.
Alors vous êtes... Olivier, vous...
Non, mais moi je souscris mille fois à ce qui vient d'être douloureusement rappelé par Jonathan. Et c'est vrai que cette complémentarité des moyens de riposte et de défense, et ça a été rappelé, et je pense qu'on ne peut pas ne pas le faire encore ce soir, c'est que c'est pas seulement pour protéger les Juifs. C'est-à-dire non seulement il faut protéger les Juifs parce que cet antisémitisme est toujours insupportable, mais c'est parce que ce sont les fondements même de la République et de la démocratie qui sont en vérité visés. Donc c'est pas un combat égoïste, c'est un combat pour la République et pour la démocratie. C'est ça que je voulais dire.
Alors effectivement, on ne peut qu'être d'accord. Alors, le temps passe finalement assez vite. On avait prévu de laisser un temps où vous pouvez... Et vous aussi échanger directement avec Jonathan et avec Olivier. Donc je vais essayer de faire un enchaînement qui permette quand même de passer un peu de temps sur la dernière partie qu'évoquait Antoine tout à l'heure. On s'est quand même dit qu'on allait parler d'éducation, de pédagogie, de mémoire, de transmission. Alors peut-être Jonathan, puis Olivier ensuite. Depuis 30 ans, l'historiographie sur le nazisme, la Shoah a fortement évolué. Il y a de nouvelles générations de chercheurs, d'historiens. Est-ce que désormais le souci de pédagogie, de transmission succède au travail scientifique d'établissement des faits historiques? Autrement dit, est-ce que tout ce qu'il y avait à faire sur le plan de la véracité historique, de la collecte des informations est fait? Et est-ce qu'on passe vraiment un peu plus à une dimension pédagogique transmission?
Alors, je n'ai pas cette impression, mais je n'ai pas beaucoup travaillé la question de l'historiographie et de l'histoire de la recherche sur la question de l'antisémitisme. Je peux par contre témoigner de ma place, c'est-à-dire nous sommes quelqu'un qui a fait un documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme et qui a eu un constat assez paradoxal. À la fois, le livre qui est là en vente ici de Paul Yakov sur l'histoire de l'antisémitisme reste, alors qu'il date des années 50 pour le début, 60 pour la fin, reste 40 ans après la référence, la somme où il y a un travail de synthèse et de recherche impressionnant, et à la fois, c'est tant mieux dans le film, on donne la parole à des personnes qui viennent de faire des recherches et des découvertes il y a peu de temps. le fameux nez juif, pour faire le lien avec le début de l'intervention dont je parlais, découvert par une historienne américaine, Sarah Lipton, en visitant le Louvre sur un coffre reliquaire qui est la plus ancienne représentation connue d'un nez crochu, ça date d'il y a quelques années. Donc on n'est pas au bout des recherches, on le sera pas. Et la dimension pédagogique, est-ce qu'elle est plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans? Je ne serais pas non plus en mesure de le dire, ni de le représenter. Par contre, est-on en mesure de constater les résultats du travail d'enseignement et de pédagogie? Ça, il y a beaucoup de sondages qui montrent que oui, la connaissance, notamment auprès des jeunes, est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, sur le passé antisémite de l'humanité. Voilà. Et particulièrement de la France, en tout cas dans les sondages qui sont portés. Mais je ne suis vraiment pas spécialiste. Olivier pourra amener des éléments que je n'ai pas.
Je pense que le travail historiographique, il se poursuit. Il doit se poursuivre et il va se poursuivre. Et on étudie encore aujourd'hui l'Antiquité et on redécouvre et on relit. Donc l'histoire, elle va se poursuivre, quoi qu'il arrive. Et c'est tant mieux, et des pages entières, à ce jour, ont été, des jalons ont été posés, et ils vont être réanalysés avec des sources qui émergeront, ou qui seront croisées et revues avec un regard neuf. S'agissant de la pédagogie, c'est vrai qu'il y a, bon, on va pas refaire l'histoire depuis 45, mais la pédagogie de l'horreur, c'est-à-dire la nécessité de confronter l'opinion publique et notamment les nouvelles générations avec des images pour provoquer un choc, pour susciter une prise de conscience quant à la réalité et à la profondeur des événements auxquels on fait référence, ça a été une démarche sur laquelle, dès 1945, les journalistes vont chercher à accrocher l'opinion, et c'est vrai, appuyé par les gouvernants. On est revenu dessus, hein, et on sait qu'aujourd'hui, confronter une classe avec le visionnage de Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui reste une œuvre emblématique, hein, et dont le texte de Jean Cayrol doit être entendu et réentendu parce qu'il est d'une bien plus grande profondeur que les caricatures qui en sont faites parfois. Mais on sait qu'aujourd'hui, on ne fait pas un cours sur l'histoire de la déportation et de la Shoah en voyant seulement Nuit et brouillard. Voilà. Donc ça, c'est vrai que cette pédagogie, cette nécessité d'inscrire en profondeur dans les programmes scolaires la question de la Shoah, mais moi j'aimerais aussi qu'on l'étende aux autres problématiques qui sont posées, notamment qui se traduisent au sein du musée de la résistance et de la déportation de Toulouse, ou qu'on aborde au mémorial de la Shoah à Paris et dans nos différents sites, elle vise à aller au-delà et à réinscrire dans un contexte historique la Shoah, pour parler de l'antisémitisme et du génocide, mais en insistant aussi sur les questions qui ont trait au système concentrationnaire dans son ensemble, qui, redisons-le, c'est pas parce qu'on parle de la Shoah qu'on parle du système concentrationnaire, et c'est pas parce qu'on parle du système concentrationnaire qu'on parle de la Shoah. Et la légitimité de l'un et de l'autre sont à défendre. Mais qu'il ne faut pas non plus écarter les questions comme celle de la résistance, au prétexte que pendant des décennies, les programmes, l'opinion a été saturée par la mise en avant de la résistance. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui elle doit disparaître des programmes, si vous voulez, et des livres d'histoire. Donc il y a des points d'équilibre à trouver, et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que parfois le curseur va dans tel ou tel sens, et qu'un peu plus de mesure, et c'est-à-dire de compréhension des phénomènes et de restitution à l'opinion, et notamment aux nouvelles générations dans les salles de classe, mériterait d'être réaffirmées.
Les nouvelles générations, mais et je sais que c'est notamment une part de vos missions au Mémorial de la Shoah, mais nous aussi au musée et de tous les partenaires qui sont engagés, et Jonathan aussi, de mon avis, du projet. Est-ce qu'on n'a pas tendance à parfois limiter trop facilement la question de l'enseignement, de la transmission et de l'éducation autour de l'antisémitisme, de la Shoah et des persécutions, aux jeunes générations? comment est-ce qu'on s'adresse finalement à l'ensemble d'une population? Alors je sais que c'est un sujet pour une soirée tout entière et encore peut-être même un cycle, mais je me permets de la poser même à titre professionnel, parce que je crois que c'est des choses qui nous habitent aussi. Quelle est la place pour la commémoration au cœur de ça? Quelle est la place pour ces projets grand public qui ne sont pas que des projets pédagogiques dans un cadre scolaire ou dans le cadre de projets portés par des institutions travaillant avec la jeunesse? 3 minutes.
Non, mais ce serait... c'est beaucoup faire porter sur les épaules de la jeunesse que de la prendre pour unique destinataire de nos politiques ou de l'action de nos institutions. Je pense que c'est un levier particulier, c'est un des outils dans la transmission et dans l'éducation. Et qui, en plus, ne doit pas se cantonner. Enfin, je pense qu'il faut aussi insister là-dessus. C'est une soirée sur l'antisémitisme et sur la Shoah. Mais redisons-le. Je veux dire, de quelle manière aujourd'hui les Juifs sont inscrits dans les programmes scolaires? C'est les Hébreux dans l'Antiquité, c'est l'affaire Dreyfus et c'est la Shoah. C'est aussi, si on prend un peu de recul, un peu limité. Et face aux défis qui nous ramènent aux questions liées à la citoyenneté, à la laïcité, c'est apporter des biais de compréhension qui permettent pas vraiment d'aller, à mon avis, sur les objectifs qui sont les nôtres. Bon. Donc, la jeunesse, c'est un levier particulier, c'est une cible, mais c'est le mot est pas du tout adapté. En tout cas, c'est un public vers lequel il faut aller, mais c'est un public parmi d'autres. Et il faut lui parler de l'antisémitisme, il faut lui parler de la Shoah, mais il faut aussi lui parler d'autres choses. Et il faut lui parler des justes, il faut lui parler de l'engagement dans la résistance ou dans les armées françaises des juifs, et c'est tout particulièrement vrai ici en France et particulièrement vrai ici à Toulouse pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il faut parler de la vie quotidienne, il faut parler de la pratique religieuse pour ceux qui la pratiquaient ou pas. Il y a plein d'angles qui sont en tout cas portés aujourd'hui. Bon, je vais pas avoir un discours un peu corporatiste, hein, je m'en excuse, mais mes collègues de l'antenne sud qui ne sont pas là, Hubert Strouk et Maurice Lugassi, mais Noémie Leroy est là et je la salue. C'est ce qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire dans la palette d'outils pédagogiques, d'activités, de hors les murs qui sont menés là. On parle évidemment de ces thématiques qui nous ramènent à la Seconde Guerre mondiale, mais je le dis avec un spectre plus large, mais on parle aussi de la lutte contre les préjugés, les stéréotypes, et là, ça n'est pas que l'antisémitisme qui doit être combattu, c'est bel et bien ces questions du racisme, de la xénophobie qui sont travaillées. Hein, ce combat contre le complotisme, c'est pas seulement de quelle façon Soral et les autres voient les juifs, c'est aussi de voir et de décrypter et de démonter cette vision du monde qui est portée par ceux qui aujourd'hui sapent les fondements de la République et de la démocratie en contournant justement les principes républicains. Voilà, donc je sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, action vers les nouvelles générations, oui, mais évidemment pas en limitant nos activités à elles. Bah, je dirais aussi, on le voit à l'image de la composition de la salle ce soir, le public il est divers, de différentes générations. Certains ont une histoire et un lien avec cette histoire, d'autres non, direct ou indirect, et pourtant on est tous ensemble, réunis ce soir. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi ça, c'est aussi cela, faire société, faire nation. C'est à la fois se tourner vers les nouvelles générations, parce que ce sont ceux qui demain seront aux commandes, qui nous remplaceront, mais c'est aussi ce monde à eux qu'on leur lègue, qu'on leur prépare, dont ils ne sont pas responsables et qu'on se doit, je crois, de leur laisser dans le moins mauvais état.
Jonathan, tu veux... Vas-y.
Je partage bien sûr ce qui vient d'être dit, et particulièrement sur le fait de ne pas s'adresser particulièrement à la jeunesse, mais de considérer que tout message qui doit être porté doit l'être en ne regardant pas son interlocuteur comme un jeune, et je pense que d'ailleurs ce qui touche le plus la jeunesse, mais ça doit pas être l'objectif, c'est lorsqu'on leur parle comme on parlerait à quelqu'un d'autre, ou lorsqu'ils sont associés à un événement avec les autres. Et je pense que par exemple multiplier les programmes destinés uniquement à la jeunesse, je parle par exemple dans les programmes audiovisuels, serait une erreur. Et par exemple, donc il y a eu des études qui ont été faites sur la réception du documentaire « L'histoire de l'antisémitisme », qui d'ailleurs a un élément important, c'est qu'il a été, c'est un des documentaires qui a été les plus vus, achetés en VOD là, sur la plateforme d'Arte, ce qui montre que le sujet intéresse grandement et que les gens veulent du contenu et sont prêts à regarder. Hein, et un de ceux qui a été vu sur la durée le plus important, donc... Ça dit quelque chose aussi de l'état de la société par rapport à l'antisémitisme. Et dans les études, les jeunes aussi l'ont regardé beaucoup plus longuement que beaucoup d'autres documentaires. Et dans la fabrication du film, donc voilà, moi je témoigne ma position, dans la fabrication du film, jamais on était attaché à l'idée de se dire « notre objectif, c'est de nous adresser aux jeunes ». Et particulièrement, parce que c'est la question qui m'a souvent été posée, on utilise des images d'un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed de Ubisoft pour venir illustrer des périodes de l'histoire. C'est le jeu vidéo qui fait des reconstitutions 3D les plus abouties. Quand Notre-Dame de Paris a été incendiée, les autorités françaises se sont tournées vers cet éditeur de jeux vidéo pour qu'il leur livre la modélisation 3D de Notre-Dame, tellement leur travail est rigoureux et pointu. Et donc pour illustrer l'Antiquité, la Révolution française, l'Angleterre au moment de la Révolution industrielle, on a utilisé des images de ce jeu. Et tout le monde disait « Ah, vous avez utilisé les images du jeu pour vous adresser aux jeunes !» Alors que tant mieux si ça a permis aussi d'associer les jeunes au visionnage du documentaire. Mais non, on a utilisé les images de ce jeu parce que, bon, ça peut rentrer, parce que pour nous, ça me semblait pertinent d'illustrer de cette manière-là, avec ces images-là, plus qu'avec des tableaux de peinture. Mais c'était pas pour toucher les jeunes. Et je pense que le fait que la démarche n'est pas toujours de faire les choses à leur adresse permettrait aussi de les y associer plus longuement.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Alors merci, on a un rôle un peu compliqué avec Antoine puisque on est aussi maître du temps. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se tourne vers vous. Il y a un micro, je vais me promener avec le micro si vous avez des questions ou des réactions. Assez bref si on peut. Pour Jonathan, pour Olivier, vous faites signe et voilà, le temps d'arriver jusqu'à monsieur. Une question que je n'ai pas posée à Jonathan, c'était celle qui concerne la réalisation de la série. Est-ce que c'était une démarche scientifique ou est-ce qu'il y a quand même dans votre esprit un aspect militant ? Ça me permet de... Ah ben, bon, on va faire à deux.
Oui, bonsoir, merci de vos exposés. Juste, ça a été un petit peu dit, est-ce que vous ne pensez pas, qu'aujourd'hui l'antisémitisme est un peu confondu avec l'antisionisme et que de ce fait, il est un peu exacerbé, tout au moins dans certains milieux politiques. Ça, c'est une première question. Et juste une remarque sur les origines de l'antisémitisme, d'après ce qu'a écrit tout à l'heure, t'as décrit, pardon, tout à l'heure Jonathan, en passant de l'antijudaïsme à l'antisémitisme, c'est un terme qui, moi, me gêne toujours, parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, on attribue tout. Un certain nombre d'attentats, on dit toujours que ce sont des attentats antisémites. Moi, je me suis posé la question depuis longtemps de savoir si, en remontant aux origines, puisque vous avez parlé du peuple sémite, c'est ce qui a créé l'antisémitisme, en fait, le peuple sémite, il vient des fils de Sem. Si on se réfère à une certaine histoire peut-être un peu oubliée, et donc dans les peuples de Sem, je crois qu'il n'y avait pas que des juifs, à ma connaissance. Merci.
Qui veut... Jonathan, peut-être ?
Juste très rapidement sur la catégorisation des sémites. Bon, il me semble que cette catégorisation n'est pas très pertinente. Donc, dire dans les sémites, il n'y avait pas que des juifs, mais peut-être qu'on pourrait aller plus simplement, et ça, c'était une formule de Tal Brutman qui a été citée tout à l'heure par Olivier Lallieu. Il avait une autre formule qui disait les sémites n'existent pas. Donc, ça ne veut rien dire. Ah, mais il n'y a pas que des juifs. Ben non, mais il n'y a pas que des juifs, mais il n'y a pas tout court. Enfin, les sémites, c'est un terme qui n'est pas scientifiquement très prouvé. Par contre, les antisémites, eux, ils existent. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut voir. Parce que dire, oui, mais les sémites, c'est pas que les juifs, donc on ne peut pas utiliser le terme antisémite. Et là, on rentre dans un débat qui me semble maladroit et stérile et inutile, en fait. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Après, sur l'antisionisme, qui est un moteur, un véhicule utilisé par des antisémites aujourd'hui, c'est un fait. C'est-à-dire que beaucoup l'antisémitisme se manifeste aujourd'hui, étant donné qu'il ne peut plus se manifester au nom de l'antisémitisme, il peut parfois se manifester au nom d'un antisionisme radical. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui évident et qui n'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le visage antisioniste radical de l'antisémitisme est apparu avec les années 2000 et comme c'est souvent situé, mais c'est une origine beaucoup plus ancienne. C'est une origine qui date des années 50, enfin, en tout cas qui peut déjà être située dans les années 50 par la machine soviétique qui, pour s'attaquer à un certain nombre de juifs, étant donné qu'ils ne pouvaient pas se déclarer antisémites, s'est déclaré antisioniste et les désigner comme sionistes en sachant bien que pour tout le monde on allait y voir derrière des juifs. Et depuis ce moment-là, le phénomène d'un antisionisme antisémite s'est internationalisé dans les années 70 et il s'exprime par-ci par-là aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui sont antisionistes sont antisémites? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire par ailleurs que toutes les personnes qui sont antisionistes, qui se déclarent antisionistes sont antisionistes? Pas non plus, c'est-à-dire je pense que même une grande majorité des gens qui se disent antisionistes sont juste très critiques à l'égard de la politique de l'État d'Israël et ils pensent que ça s'appelle l'antisionisme, mais ça n'est pas de l'antisionisme, c'est juste qu'ils sont très critiques à l'égard de la politique de l'État d'Israël. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se disent antisionistes et qui sont en réalité antisémites, mais qui se masquent derrière ce véhicule-là. Donc c'est très intéressant de situer ce phénomène de l'antisionisme dans son histoire, de comprendre là où il est utilisé de manière maladroite ou avec ignorance et là où il est utilisé de manière intentionnelle pour pouvoir masquer un antisémitisme qui ne peut pas dire son nom.
Une autre question, monsieur au fond.
Bonsoir. Vous nous avez parlé tout à l'heure des Einsatzgruppen qui étaient des divisions meurtrières et missionnées. Et nous, on a eu la colonne d'Aisrach. J'aimerais savoir dans quelle mesure on peut trouver des similitudes et des différences. Merci.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire militaire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les Einsatzgruppen étaient des unités qui regroupaient à la fois des membres des services de sécurité allemands, pour beaucoup nazis, pour d'autres non, et qui ont donc eu qui ont été ce bras armé de la politique, un des bras armés parmi les plus importants de cette politique génocidaire à l'Est. La division SS d'Eisreich, c'est donc une des unités militaires de la SS, dont un certain nombre de membres, d'ailleurs, étaient passés par la guerre à l'Est, qui était une politique, enfin aujourd'hui, qui ont été parmi les opérations militaires les plus terribles, hein, une guerre exterminatrice, si vous voulez, au-delà de la répression, enfin pas de la persécution et de l'anéantissement des Juifs, mais les pratiques guerrières menées par à la fois les unités régulières de la Wehrmacht, mais aussi les unités idéologiques de la SS ont mené à une somme de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité absolument terribles. Il y a un nombre d'ouvrages qui le restituent tout à fait bien aujourd'hui. Une véritable guerre idéologique qui débouche sur une guerre exterminatrice. Et donc un certain nombre de ces soldats SS versés sur le front occidental vont mettre en pratique un certain nombre d'actions et de pratiques qu'ils avaient utilisées à l'Est, qui jusqu'alors sur le front occidental étaient relativement contenues, avec cette idée que l'occupation de la France ne ressortait pas des mêmes principes idéologiques que ceux qui étaient menés dans la guerre à l'Est. En revanche, au moment des combats pour la libération en 1944, ces unités-là, et notamment la division d'Eisreich dans ce parcours tragique, enfin criminel, hein, qui fut le sien, remontant vers la Normandie, mais se livrant partout sur son cheminement au-delà du seul Oradour-sur-Glane, hein, qui est un peu, aujourd'hui dans l'opinion, l'événement phare, mais qui ne doit pas occulter ce qui a été le cas à Tulle ou dans d'autres territoires de ces crimes, et ici aussi, évidemment. Donc voilà, ils sont porteurs de ces pratiques, et de la mise en œuvre de cette politique de terre brûlée qui a été leur quotidien à l'est de l'Europe depuis 1939 et qui, dans le contexte du combat contre les forces alliées et de la montée en puissance de la résistance, vont être menées ici également en France et notamment dans la région ici à Toulouse.
Voilà, merci Olivier. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on clôture peut-être cette soirée. Avant toute chose, je voudrais me tourner vers les personnes qui, depuis tout à l'heure, doublent nos interprètes en langue des signes, voilà, sans qui nos soirées ne seraient pas accessibles. Donc merci à vous deux, on peut les applaudir. Voilà. Un petit mot de remerciement pour toute l'équipe. Certains sont partis, certains sont encore là. Toute l'équipe logistique et événementielle du conseil départemental qui s'est assurée que vous soyez accueillis dans des bonnes conditions de confort, de sécurité, etc. Un petit coucou à mes collègues de l'équipe de la mission Chemin de la République. Ils sont pas tous là, mais vous avez Morgane que vous retrouverez demain soir, je vais en dire un mot, et Aurélie. Voilà, un grand merci à Antoine d'avoir participé à ça. Un salut à Noémie du Mémorial de la Shoah, merci d'être là. Et puis, remerciements infinis à Olivier Lalieu, à Jonathan. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé. On les applaudit. Deux mots, si vous le permettez, sur la suite des rencontres pour l'égalité, puis après des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Enfin, il se passe toujours quelque chose d'intéressant au musée de la résistance et de la déportation. D'une part, vous pouvez retrouver tout le programme des rencontres pour l'égalité. Je croyais qu'il y avait le sur haute-garonne.fr. Demain soir, dans cette même salle, une soirée consacrée à la thématique hétéronormativité et préjugés, avec la présence de Michael Durand, sociologue, physiquement ou en visio, il y a quelques grèves, donc on ne sait pas encore, mais il sera là dans tous les cas, qui sera entouré de Pride et d'ACT-UP. À venir, une émission qu'on va enregistrer également demain après-midi de radio qui sera accessible sur Radio Localitz, la radio web. Jeudi soir, toujours ici, on se retrouve avec Benedetto Zaccheroli, qui est le président de la Coalition internationale des villes contre le racisme, dont est membre le conseil départemental de Haute-Garonne, et qui sera entouré de Camille Toveron et de Louise Savry, toutes les deux chargées de mission au CNCDH et qui travaillent sur notamment tout le rapport et le baromètre mis en place par le CNCDH sur l'état du racisme en France, donc notre débat. Voilà, on fera un petit break vendredi, et samedi vous êtes invités à nous retrouver toute la journée à partir de 11h jusqu'à 19h, Square Charles de Gaulle pour le village Ensemble pour l'égalité, avec une bonne partie des associations partenaires des Chemins de la République avec qui on travaille toute l'année. Ils seront pas tous là, mais il y en aura beaucoup. Et avec des forums et un plateau radio toute la journée, des interviews, des débats, des échanges, etc. Voilà. Et puis, je vais laisser la suite à Antoine. Donc, merci à vous.
Une conclusion très rapide pour vous inviter toutes et tous à venir au musée voir notre superbe exposition consacrée aux photographies de Michael Kenna, L'ombre de la lumière, réalisée par notre excellent commissaire d'exposition Thomas Fontaine. Vous dire que sur la thématique de ce soir, vous aurez le 27 avril, Tal Brutman en partenariat avec la librairie Ombre Blanche pour son album, son très beau livre sur son album. Et le lendemain, vous retrouverez Tal Brutman, mais cette fois-ci avec Laurent Joly, toujours en partenariat avec Ombre Blanche, mais au musée, et en partenariat pour cette soirée avec le Mémorial de la Shoah, pour un ouvrage à paraître prochainement de Laurent, qui dirige un ouvrage collectif aussi sur la Shoah en France et les sources de l'histoire. Vous dire aussi que sur ces questions, nous avons discuté en préparant cette soirée avec Jonathan et nos amis du Mémorial de la Shoah. Un projet est en train de se construire autour de la création dans un maquis du Midi Toulousain de l'Union des étudiants juifs de France, et on vous en dira plus dès que le projet aura terminé sa longue maïeutique, mais qui n'en sera que très riche. Donc tout ça pour vous dire à très bientôt au conseil départemental, au musée de la résistance et de la déportation, avec nos amis du Mémorial de la Shoah, partout où on parle histoire et mémoire.
Même audio, une mémoire sonore.